Gloire au Seigneur. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir le Saint-Livre. On va faire une lecture que je pense vous connaissez pour la plupart. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, nous n'allons pas pouvoir lire tout le chapitre, mais on va parcourir ce chapitre 11. Premier donc verset. Nous lisons, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Nous allons maintenant au verset 17 de ce même chapitre. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et nous allons, pour terminer notre lecture de ce texte, ce soir au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. » car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. Amen. » Si vous ne connaissez pas ce texte, si c'est la première fois que vous l'entendez ce soir, je pense qu'il est marquant, frappant, parce que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Et j'aimerais, ce n'est pas le sujet principal, mais j'aimerais avant que nous puissions aller plus loin, revenir sur 2 paroles que le Seigneur Jésus a pu dire. Parce que nous l'avons lu, et c'est le contexte, Jésus n'est pas allé de suite pour secourir Lazare. On le sait, on l'a lu, vous l'avez sûrement déjà entendu à maintes reprises. Mais ce qui est surprenant, c'est que, bien sûr, Jésus va expliquer pourquoi il a fait ça. Mais Jésus va, avant d'expliquer et avant d'aller voir les sœurs, avant de se révéler d'une manière encore plus profonde, va dire une parole qui, je pense, vous a déjà interpellé. C'est au verset 4 de ce chapitre 11. Il nous est dit que lorsque Jésus a appris la nouvelle, il va dire au sujet de Lazare, la maladie de Lazare ne... Et je vais vous le lire dans la version français courante, mais Louis II relate cela de la même manière. La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur cette proclamation de Jésus-Christ, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir, parce que quelques versets plus loin, c'est le même Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui va expliquer aux disciples, parce qu'ils ne comprenaient pas ses agissements, Jésus leur dit clairement, ouvertement, Lazare est mort. Alors, on comprend plus. D'un côté, Jésus explique que cette maladie ne va pas faire mourir Lazare, et d'un autre, pour expliquer aux disciples clairement ses intentions, son but, va dire « mais Lazare est mort ». Et je pense que dans ces deux versets, deux phrases, nous voyons là l'intention du Seigneur Jésus-Christ. Parce que on pourrait le relire d'une manière différente. La maladie de Lazare ne le fera pas mourir spirituellement. Elle servira à glorifier Jésus-Christ. La maladie n'aura pas pour finalité la mort spirituelle, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il veut se manifester, et c'est ce qu'il souhaite encore faire ce soir, il veut manifester la vie. Mais nous comprenons que quelquefois dans notre vie, dans notre existence, il est nécessaire que Jésus-Christ nous laisse quelques instants dans nos difficultés, dans nos épreuves, pour que nous puissions arriver à une certaine mort. Pour nous qui sommes convertis, on pourrait parler de la mort à soi, mais combien ce soir peuvent dire, peuvent témoigner qu'ils ont crié au Seigneur lorsqu'ils étaient dans une situation terrible? Combien peuvent dire, peuvent proclamer que c'est dans des moments où ils n'avaient plus aucune solution qu'ils ont crié au Seigneur? Et on comprend pourquoi quelquefois le Seigneur Jésus ne va pas intervenir de suite. On comprend pourquoi Jésus a pu dire « mais cette maladie ne sera pas à la mort ». Et on comprend ce soir pourquoi Jésus-Christ peut dire à quelqu'un que ce qu'il traverse ne sera pas à la mort, à l'effondrement, aux ténèbres, parce que au travers de tout ce que nous vivons, de tout, au travers de tout ce que nous vivons, il y a derrière le plan de Dieu pour se manifester, pour se glorifier. La mort même n'a pas pu retenir Jésus-Christ, parce que là où est Jésus-Christ, il y a la vie. Et Jésus, de la même manière, pour Lazare, voulait manifester sa vie. Et je pense ce soir veut manifester sa vie. Ce qui nous amène à un point important, et c'est ce que j'aimerais développer encore pendant quelques instants ce soir, c'est cette parole de Jésus-Christ. On l'a lu, il va se passer tout un tas de choses, il va parler aux sœurs, on n'a pas tout lu, le dialogue, on a lu ce qui s'est passé avec Marthe, avec Marie il va y avoir aussi un dialogue, Jésus va se retrouver devant le tombeau, et Jésus va dire « ôtez la pierre ». Ôtez la pierre. Les tombeaux à l'époque, et c'est expliqué, c'était une grotte, et pour fermer la grotte, il y avait une pierre. Jusque-là, on comprend, et il n'y a rien d'étonnant. Mais toujours dans cette optique que Jésus-Christ, quelquefois, attend que dans notre vie nous soyons limités pour agir, pour intervenir, de la même manière nous fait comprendre et nous passe un autre message ce soir, c'est que c'est à nous d'ôter les pierres. On est tous d'accord pour dire que si Jésus-Christ avait prié, par exemple, pour que des anges ôtent la pierre, des anges seraient venus pour ôter la pierre. Ou, je ne sais pas, on peut imaginer tous les scénarios possibles. Et vous êtes d'accord avec moi. Tous les scénarios peuvent être réalisés, auraient pu être réalisés, parce que nous savons que Jésus-Christ est tout-puissant. Jésus va aller plus loin parce qu'il ne va pas commencer à prier tant que la pierre n'est pas ôtée. Là aussi, ça nous interpelle parce que on se dit quand même, il aurait pu prier pour Lazare, la pierre étant toujours devant le tombeau. Est-ce qu'il aurait pu le faire, Jésus? Ben oui. Et est-ce que, sincèrement, on pourrait douter qu'il aurait été exaucé, même si la pierre avait été laissée devant le tombeau? Ben, il aurait été exaucé, c'est évident. Parce que tout ce que dit Jésus, et il le dit à de nombreuses reprises dans la parole, tout ce que Jésus dit, c'est dicté, c'est donné du Père. Et on sait qu'il n'a rien fait de lui-même. Il n'a pas agi de lui-même. Il a fait les œuvres que le Père lui a donné de faire. Donc, on comprend, lorsque on lit plusieurs textes dans la parole, que lorsque Jésus vient pour prier pour Lazare, c'est voulu de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, pour nous, frères et sœurs, vous qui êtes là, n'est pas différent de ce que Jésus a voulu manifester. L'amour de Dieu et Christ se matérialise, s'identifie, s'exprime par Jésus-Christ. Ce qui nous fait comprendre, lorsque Jésus va attendre, il a attendu volontairement, parce que ce n'était pas une question de puissance, ce n'était pas une question de ses propres capacités, mais c'est pour nous, frères et sœurs, bien-aimés qui êtes là, que Jésus-Christ a donné cette parole. Parce qu'il y a cette réalité, c'est qu'il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que Jésus ne fera pas pour nous. Il y a des choses, pourtant, on aimerait, peut-être Marthe et Marie auraient aimé que ça se passe autrement, la foule qui était friande de spectaculaire, de miraculeux, aurait pu vouloir que finalement ça se passe différemment, mais c'est pas ainsi. Et le projet de Dieu s'accomplit, le plan de Dieu s'accomplira de toute manière lorsque nous faisons ce qu'il nous demande. Et s'il y a une seule chose à retenir ce soir de ce message, de cette pensée, c'est que dans notre vie, il peut se trouver exactement la même chose. Jésus est là, Jésus veut prier. Jésus veut sauver ce soir, Jésus veut guérir, Jésus veut intervenir, mais il attend. Il attend parce que on peut se rendre compte que dans notre existence, il y a des pierres. Il y a des pierres qui peuvent bloquer l'accès. Il y a des pierres qui ont été roulées dans notre vie. Et ces pierres-là, nous devons avoir cette honnêteté de vie, de cœur, de dire « Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que j'ai placé une pierre devant mon cœur. Est-ce que ça peut arriver ?» On est déçu, il se passe des choses difficiles et on peut comprendre que là, c'était difficile. Un deuil, une déception, un projet qui ne se passe pas comme prévu. Il peut y avoir mille et une choses. On s'intéresse à Dieu, on vient à l'église et puis la vie fait que on a mal compris quelque chose. Bien sûr, la Bible nous parle aussi de l'ennemi de nos âmes qui va faire en sorte que on s'enferme sur nous-mêmes. Parce que dans la Bible quand même, et peut-être vous y avez pensé vous-même, il y a d'autres textes qui nous parlent des pierres. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous vient à l'esprit? Eh bien oui. Par exemple, la parabole du semeur, on voit là qu'il y a différents terrains. Et on voit que le Seigneur va parler sur les terrains qui sont pierreux, rocailleux. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Il peut y avoir des pierres dans nos vies, dans notre cœur, qui empêchent la parole de Dieu d'agir. Et ces pierres-là, le Seigneur nous demande d'être honnêtes face à cela. Nous demande de peut-être les enlever pour que sa parole puisse commencer à travailler nos cœurs, pour qu'il puisse y avoir un fruit qui commence à pousser, à germer et à produire la vie. Et on comprend que toutes ces choses que finalement nous mettons en place dans notre cœur, dans notre vie, Ça peut arriver à prendre la première place, la place de Dieu. Il y a ce texte, c'est Jérémie qui dit ça. Israël a souillé le pays, car elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. C'était les idoles avant, mais aujourd'hui, on le sait, on peut avoir des idoles. Il peut y avoir des choses qui prennent la première place. Et on espère tellement que le Seigneur agisse. Mais je rappelle que le Seigneur est devant le tombeau. Je rappelle que le Seigneur, lui, il veut prier. Et lorsqu'il prie, il sait que sa prière va être exaucée. Mais il attend. Et nous devons, peut-être ce soir, avoir cette honnêteté de cœur, de dire, mais c'est vrai, Seigneur, il y a tellement de choses qui sont venues dans ma vie. Il y a tellement de choses auxquelles je n'ai pas prêté attention dans ce que je regarde, dans ce que je pense, dans ma manière de réfléchir, d'appréhender la parole de Dieu. On peut discuter la parole et ça peut venir faire rouler une pierre. Notre cœur s'enferme sur soi-même, la souffrance. Et cette pierre qui vient là pour fermer toute chose. Et combien de personnes s'enferment sur elles-mêmes? Et cette parole de Jésus-Christ doit retentir ce soir. Ôtez la pierre. Enlevez ce qui peut interférer, ce qui prend la place de Dieu. Enlevez ce qui bloque l'action de Jésus-Christ. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Il y a un temps où dans notre propre vie, nous avons lancé des pierres, les pierres du monde sur notre cœur. C'est les mêmes pensées qu'on étaye un petit peu. Il y a un temps où nous avons voulu diriger notre propre existence, où finalement on ne prêtait pas attention à Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix. Mais ce soir, peut-être que le Seigneur veut rappeler quelqu'un, veut se révéler à une personne en disant « Mais toutes les pierres qui ont été lancées dans ta vie ». On peut en lancer des pierres, les pierres de la haine. Est-ce qu'on ne peut pas lancer des pierres de haine, des pierres d'incrédulité? Bien sûr, le péché, bien évidemment. Le péché qui est là, qui se manifeste, et notre vie est remplie de toutes ces pierres que nous avons lancées, que nous avons placées dans notre existence. Mais il y a un temps aussi où, par la grâce de Dieu, nous pouvons ramasser, nous pouvons avoir l'honnêteté de dire, oui, Seigneur, c'est vrai, il y a ça qui a pris place dans ma vie. C'est vrai, Seigneur, je prie pour que tu agisses dans ma vie. Mais il y a tel péché, je vais pas les nommer, on sait ce que peut-être le Seigneur veut nous montrer ce soir. Ce que révèle ce texte, c'est que Jésus, et je vais le répéter encore, Jésus veut intervenir. Mais Jésus attend. Jésus veut voir quel écho a et aura la parole qu'il veut nous dire ce soir, la parole de Dieu bien évidemment. Jésus veut voir quel écho a lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous sommes chez nous, si nous prenons ce qu'il veut nous dire ou si nous mettons de côté, si nous voulons nous attacher à peut-être ramasser les pierres. Vous savez, lorsque Marthe va parler au Seigneur, quelque part, c'est une réaction qu'on a tous eue à un moment donné ou à un autre. Et je vais m'expliquer. Lorsque Marthe dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Si la Bible nous indique, nous invite à ramasser les pierres de notre vie, à enlever ce qui prend la place, dans notre vie, lorsqu'on s'approche du Seigneur Jésus-Christ, où on comprend qu'il y a des choses qui ont pris place, la pierre du péché, bien évidemment, c'est la principale, l'impudicité, la violence, la haine, le mensonge, la cupidité, il peut y avoir tellement de choses. Lorsqu'on essaye de ramasser, lorsqu'on veut ramasser ces pierres, effectivement, ça va sentir mauvais. Effectivement, la mort va être là. Mais je dois vous rappeler que Jésus, lui, il était toujours devant le tombeau. que Jésus, lui, c'est pas l'odeur de mort qui le dérange, c'est la pierre. C'est pas la mort qui fait peur au Sauveur. C'est pas dans quel état nous sommes. C'est pas les ténèbres qui font peur au Sauveur. C'est pas, et on pourrait multiplier les exemples, ce qui empêche Jésus d'agir dans votre vie, dans notre vie, c'est les pierres qui ont été là, placées, et qui ne sont pas ôtées. Parce que peut-être qu'on ne veut pas les ôter. Peut-être qu'on veut les garder. Et Jésus ne va jamais, jamais outrepasser notre identité, ce que nous sommes. Jésus ne fera jamais quelque chose qui pourrait nuire à ce que nous sommes. Il nous laissera le choix. Mais quand même, est-ce que ça vaut pas la peine ce soir qu'on réfléchisse et qu'on se dise « Mais oui, j'en ai marre de cette odeur de mort. J'en ai marre de la mort. Je veux que Jésus puisse intervenir et prier dans ma vie. » Ecclésiaste 10, verset 9 nous dit « Celui qui remue des pierres en sera blessé. » Eh oui, c'est un risque qu'on peut prendre. On peut se blesser. On peut être blessé dans notre orgueil lorsqu'on voit dans quel état nous sommes. On peut être blessé parce qu'on voit réellement qu'on n'est pas la personne extraordinaire qu'on pensait être. On peut être blessé lorsqu'on est face à l'œuvre de la croix et qu'on voit Jésus crucifié, son sang coulé, pour nous pardonner de nos péchés. Mais un pasteur a pu dire cela un jour et j'ai trouvé cette expression tellement, tellement vraie. Quelquefois, Dieu nous blesse pour nous guérir. Dieu nous blesse, Dieu permet qu'on soit blessé pour nous guérir. Celui qui remue des pierres en sera blessé. Il y a des pierres peut-être que tu ne veux pas ôter, enlever, soulever dans ta vie, parce que ça peut ramener tellement de souvenirs difficiles. Il y a des choses, on pense que c'est relayé au passé. On met une pierre dessus, on se dit c'est réglé. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que le péché, on en souffre longtemps. Et si ce soir, le Seigneur Jésus nous invite en nous disant « Mais ôte la pierre », ce n'est pas pour que la blessure produise la mort, mais c'est pour que la blessure puisse produire la vie. On a besoin d'être vrai. Il y a ce texte qui dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte ». Peut-être qu'on a besoin d'être tel que nous sommes devant le Seigneur. On a besoin de dire, mais oui, c'est vrai, Seigneur. Pendant tellement de temps, je t'ai prié, mais il y avait une pierre dans ma vie. Il y a quelque chose qui bloquait, quelque chose qui empêchait ton action. Et suite à la proclamation de Marthe, Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un texte que l'on connaît, on a sur des signets, des posters, mais c'est quand même une réalité que nous pouvons vivre, expérimenter ce soir. Jésus, lui, n'attend que ça. Je ne sais pas si on s'imagine, lorsque nous lisons ces textes, et qu'on voit que Jésus frémissant de nouveau en lui-même, il y a... Quand, dans cette expression « frémir », il y a un mélange quand même. Il y a quelque chose de sérieux, de grave, mais aussi une compassion extrême. Il y a le désir du Sauveur. Jésus frémit ce soir. Est-ce qu'on le croit que Jésus frémit à la pensée que quelqu'un puisse avoir l'audace d'enlever une pierre dans sa vie ? Est-ce qu'on croit que Jésus frémit à la pensée qu'il puisse sauver quelqu'un, il puisse délivrer quelqu'un ce soir? Et pourtant, c'est la réalité. Jésus n'attend qu'une seule chose, c'est que nous puissions avoir foi en lui. Ne pas penser aux blessures, ne pas penser à cette odeur de mort qui va revenir, mais penser que le miracle vient de suite après. Je terminerai en disant que, comme on l'a lu, Jésus va prier, Lazare va sortir. Et ce qui est marquant, c'est la prière de Jésus-Christ, parce que c'est ce qui doit toujours se manifester dans notre vie. Le but de la prière, le but du miracle, c'est que ceux qui étaient là, la foule, c'est que nous-mêmes, nous puissions voir que Jésus, c'est le Fils de Dieu. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ce que nous vivons n'aura toujours que pour un seul et unique but, révéler la divinité de Christ dans notre vie. Si on note les pierres que pour soi, que pour dire « ça y est, je suis débarrassé pour aller dans le monde », pour retourner, il y aura toujours un problème. Mais Jésus exprime, et c'est ce que nous devons comprendre ce soir, ce qui pourra te libérer de ton péché, c'est lorsque tu vas croire que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui a été crucifié, comme on l'a chanté, le sang coulant du calvaire. C'est cela qui nous offre la vie. C'est cela qui nous offre le pardon de nos péchés. C'est cela dont nous avons besoin. Je terminerai juste en vous lisant ce texte. On peut le lire ensemble, remarquez. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Je vous rappelle qu'avant, on était mort. Il y avait cette odeur de mort. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, et c'est le choix qui reste pour nous ce soir, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous en parlons, en Christ, devant Dieu. Ce soir, on peut partir en ayant cette odeur de vie. Et on peut partir en gardant nos pierres et en ayant toujours cette odeur de mort dans notre existence. On peut prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet encouragement. Ce chemin que tu veux nous faire prendre ce soir. Tu sais, Père, ce qui peut avoir pris place dans notre vie, dans nos cœurs, dans le cœur de bien-aimés ce soir, de frères et sœurs. Tu sais les pierres qui peuvent venir rouler pour nous enfermer, pour nous meurtrir. Les pierres qui sont là, que le péché a engendrées. Le jardin de notre cœur qui est tellement encombré que ta parole ne peut pas venir pour s'implanter. Père, ce soir, que quelques-uns puissent saisir ce que tu demandes, ôter les pierres, en se tournant vers toi, en confessant leurs péchés, en, Seigneur, te demandant tout ton secours pour qu'ils puissent, Seigneur, connaître cette odeur de vie. Merci Jésus-Christ parce que tu désires tellement le faire, tu frémis en toi-même que quelqu'un ce soir ait l'audace d'ôter la pierre de sa vie. Père, merci d'agir maintenant par la puissance du nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.